Bienvenue dans le débat. 7 mois avant la présidentielle aux États-Unis, où on est le match Biden-Trump. Le droit à l'avortement est au centre de la campagne. Ce week-end, Donald Trump a précisé sa position en affirmant qu'il s'en remettait aux États, comme l'avait décidé la Cour suprême. L'ancien président l'a dit en tout cas sur son réseau social Truth. Une claque au visage de ceux qui ont voté pour lui, a répondu son ancien vice-président Mike Pence, partisan d'une loi sur l'interdiction de l'IVG. Joe Biden et Kamala Harris pensent que Donald Trump souhaite en fait signer une telle loi nationale d'interdiction au recours à l'IVG. Kamala Harris, qui est notamment très active sur les campus américains pour défendre ce droit à l'IVG. Hier lundi, Joe Biden était dans le Wisconsin où il a lancé un nouveau plan de réduction de la dette étudiante. Biden qui axe sa campagne sur les jeunes dans cet état clé où un certain nombre d'entre eux avaient dénoncé son soutien à Israël lors de la primaire. Alors on va revenir sur cette déclaration de Donald Trump sur l'IVG. Est-ce finalement un changement de cap de la part de l'ancien président ou est-ce habile de sa part en pleine campagne? Où en est-on de cette campagne d'ailleurs à 7 mois de l'élection? On va poser les questions à nos invités. John Rick MacArthur est avec nous ce soir. Il est à Paris, John Rick. Bonsoir, directeur de Harper's Magazine qui titre ce mois-ci « The End of Hollywood as we know it ». Et on voit la couverture de celui qui a juste précédé « Crime and Punishment ». Merci d'être là à Paris, John Rick.
Merci à vous.
En général, on vous
Merci
a à New York.
Je suis vraiment ravi d'être en personne.
On est ravi de vous avoir en plateau.
Et par duplex.
Merci. Cécile Coquet-Mococo, bonsoir, professeur de civilisation américaine à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Merci d'être là. L'avortement, donc au cœur de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump qui affirme donc qu'il va s'en remettre aux États, comme l'avait décidé la Cour suprême. On fait un point en image avec Florent Rodeau.
C'est un sujet central de la prochaine présidentielle américaine, l'avortement. À 7 mois du scrutin, surprise de taille, Donald Trump estime qu'il revient à chaque État de décider de sa législation. Les États devront choisir par un vote ou par une loi. Et ce qu'ils décideront devra être la loi de l'État. De nombreux États seront différents, beaucoup auront un nombre de semaines différents et certains seront plus conservateurs que d'autres. Un changement de cap pour l'ancien président, lui qui se targue publiquement d'avoir nommé pendant son mandat 3 juges conservateurs à la Cour suprême qui ont ensuite contribué à mettre fin à la protection fédérale de l'IVG. C'était à l'été 2022. En virant de bord après un an de flou sur cette question, Donald Trump renonce à ses convictions et tente une nouvelle stratégie politique. Sera-t-elle payante? Pour beaucoup d'observateurs, rien n'est moins sûr. Exemple, en Floride, un État que l'ancien locataire de la Maison-Blanche a remporté en 2016 et 2020. Il y a un an, son gouverneur conservateur Ron DeSantis signe une loi limitant à 6 semaines l'interruption volontaire de grossesse. Une période pendant laquelle de nombreuses familles ignorent être enceintes. Donald Trump la qualifie alors d'erreur terrible. Les juges de la Cour suprême floridienne la valident pourtant le 1er avril 2024, mais ils estiment, dans le même temps, que les électeurs de l'État auront le droit de choisir en novembre prochain d'autoriser l'IVG jusqu'à 24 semaines, à condition de réunir 60% des votes. Une perspective qui pourrait mobiliser massivement les jeunes et les femmes en Floride, pourtant considérés comme acquis aux républicains. Côté démocrate, Joe Biden n'a pas manqué de moquer la position d'équilibriste de son rival. Le président américain affirme que Donald Trump s'est empêtré dans sa position. Il l'accuse d'avoir retourné sa veste pour éviter d'être sanctionné par les électeurs qui le verraient comme responsable de la fin de l'IVG au niveau fédéral.
John Rick MacArthur, est-ce qu'effectivement c'est un changement de cap pour Donald Trump?
Oui, c'est un changement de cap, mais vous étiez trop gentil là, alors que vous avez dit qu'il avait précisé sa position. Il n'y a jamais quoi que ce soit comme précis chez Donald Trump, mais il a clairement reculé parce que les chrétiens de la droite espéraient bien sûr qu'il allait appuyer une nouvelle loi fédérale qui mettrait une interdiction fédérale sur les avortements après 6 semaines ou quelque chose comme ça. Alors, il voit bien que c'est perdant.
Mais c'est perdant, pourquoi vous dites?
C'est perdant parce qu'il sait qu'il y a plusieurs États qui ont promulguer des amendements dans les constitutions de l'État, parce que rappelez-vous qu'il y a 50 constitutions dans 50 États différents qui garantissent le droit à l'avortement. Mais finalement, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut vraiment miser sur les banlieusards, les républicaines modérées, qui soutiennent, eux, tous, le droit à l'avortement, bien qu'elles soient des républicaines de foi.
Donc c'est un switch, vous êtes d'accord, c'est coquet mon coco, finalement, de parier sur cet électorat féminin plus au centre, républicaine, mais plus au centre.
C'est assez compliqué de voir où va Donald Trump, dans la mesure où en 1999, il s'était dit très en faveur de l'avortement, et en 2016, il avait commencé à envisager que les femmes qui recouraient à l'avortement soient punies d'une manière ou d'une autre, en restant dans une imprécision totale. Donc là, il essaie, comme d'habitude, de se présenter comme celui qui a marqué l'histoire américaine, en étant celui qui a tenu ses promesses auprès des électeurs évangéliques qui lui avaient promis leur vote à condition qu'il nomme des juges à la Cour suprême qui mettraient fin à Roe v. Wade, donc cet arrêt de la Cour suprême qui autorisait, qui rendait constitutionnel, qui validait la constitutionnalité de l'avortement jusqu'à 23-24 semaines. Donc là, en fait, il se défausse de la responsabilité de la suite, puisque maintenant, ces électeurs évangéliques qui ont obtenu ce qu'ils voulaient vont continuer leur combat pour que la notion de personnalité juridique soit appliquée non seulement au fœtus, mais aussi aux embryons dès la conception. Ce qui est une doctrine catholique au départ qui n'était pas celle des évangéliques, mais qui l'est devenue à partir des années 80.
Donc il se démarque des évangéliques finalement, et est-ce qu'il ne risque pas justement de perdre une partie de cet électorat ?
Non, parce qu'ils n'ont rien, il n'y a aucun candidat qui représente les pensées, les idées, les souhaits des chrétiens évangéliques. Mais ce que j'allais dire, c'est que il y a autre chose en jeu là, et j'ai dit, je me moque de Trump, c'est très, très, très facile de se moquer de Trump, mais il a quand même, il est fébrile, disons, il ressent les peurs, les souhaits, etc., les méchancetés des gens, des citoyens américains, et nous avons, et c'est vrai, nous avons publié un essai dans Harper's, je me suis rendu compte avant de venir, par une ancienne prostituée qui revendique le droit de ne pas être enceinte, que c'est un droit fondamental. Jamais, jamais, elle affronte la question de l'avortement, à quel point on peut terminer, on peut finir avec le bébé.
Et pourquoi ?
Et c'est parce qu'elle est radicale. Alors, il y a un côté radical du mouvement anti-avortement dont Trump profite, parce que vous avez bien noté, mesdames, qu'il il a accusé dans sa vidéo les démocrates d'assassinat, de permettre le meurtre de bébé après l'accouchement. Oui. Mais c'est absolument hallucinant. Mais il y a des gens qui se disent, c'est vrai, il y a quand même des radicaux parmi nous, qui refusent de préciser la date limite pour l'avortement. Et c'est vrai, dont notre écrivaine, là.
Donc, mais au final, parce que les démocrates...
Et les gens ressentent cette peur, cette immoralité.
Mais les démocrates, eux, Biden et Kamala Harris, l'accusent justement, en fait, de vouloir mettre en place une loi fédérale d'interdiction de l'IVG. C'est ce qu'ils disent. Quelle est l'intention véritable de Trump et que fera-t-il si jamais il gagne ?
Alors, avoir une loi fédérale interdisant l'IVG à travers le pays, ce serait le souhait de groupes très conservateurs, effectivement. À mon avis, l'animal politique qui est devenu Donald Trump ne va jamais faire ça. Et au contraire, il va tenir une position qui va tout remettre entre les mains des électeurs des États, ce qui lui permettra très facilement de s'approprier les victoires là où ça l'arrange et d'incriminer des sous-fifres, si j'ose dire, mais des politiciens locaux pour toutes sortes de défaites dont il n'assumera jamais la responsabilité. Donc c'est relativement habile.
C'est ça, c'est de l'habileté politique de la part de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il pense finalement au fond ? Il a une conviction sur le droit à l'avortement.
Il n'a aucune conviction.
Sur le droit à l'avortement.
Et j'allais dire, il y a autre chose en jeu. Il y a le procès de Stormy Daniels qui va débuter lundi.
Ils sont en train de nommer les jurés.
Et là, il s'agit d'une ancienne vedette de la pornographie avec laquelle il a soi-disant couché et qu'il aurait payé pour se taire pendant la campagne de 2016, de 2016. Mais en même temps, il y a deux autres histoires de hush money, comment dit-on, de paiement à des gens pour se taire. Et un des paiements, il s'agissait d'une histoire un article qui allait sortir dans un journal de sensation, qui aurait reporté que Trump avait payé pour l'avortement d'une copine. Ils ont retiré l'histoire à la dernière minute, j'imagine, mais ça pourrait sortir de nouveau pendant le procès. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'il a annoncé sa nouvelle, entre guillemets, position sur l'avortement, justement pour distraire les gens du procès, Stormy Daniels.
C'est toujours, comment dit-on, se faire diversion. Il fait diversion.
Oui, diversion.
La stratégie des démocrates, tout de même, Cécile Coquet-Mococo, c'est de mettre beaucoup en avant ce droit à l'avortement, parce qu'on sait qu'ils avaient gagné de nombreuses voix, y compris d'ailleurs aux législatives, à la Chambre des représentants, parce que justement, les républicains sont contre l'avortement. Est-ce que c'est ça, ce thème tout de même, qui risque de faire la différence? Et est-ce que finalement, avec cette position-là, Donald Trump ne brouille-t-il pas un peu les pistes?
C'est certain qu'il est de l'intérêt des politiciens des deux camps d'avoir des questions clivantes qui permettent aux électeurs de se prononcer en ayant à réfléchir que sur un sujet de société, ce qu'on appelle « wedge issues » aux États-Unis. Donc une question qui fait vraiment clairement la distinction entre un camp et un autre. Du côté des démocrates, on fait aussi passer pour quelqu'un d'insensible et de cruel Donald Trump en disant que c'est de sa faute si aujourd'hui des Texanes meurent de septicémie parce qu'elles n'ont pas pu obtenir un avortement en raison des lois qui interdisent l'avortement passé 6 semaines, comme il a été dit dans le sujet. Donc chacun accuse l'autre d'inhumanité et d'insensibilité à la souffrance humaine.
Est-ce que les Américains... Oui, vous êtes d'accord.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, il y a Biden qui prend un risque extraordinaire parce qu'il est catholique.
Ouais.
Mais il n'est pas, évidemment, il ne suit pas les dictats de Rome. Et on vient de voir que même le grand pape François a annoncé hier, le Vatican a annoncé encore son opposition à l'avortement et aux, comment dit-on, les grossesses d'autrui, etc.
La GPA. Gestation pour autrui.
Donc, il y a quand même des catholiques américains qui sont contre l'avortement et qui trouvent que Biden est hypocrite. Alors, il court des risques.
Il court des risques. Mais finalement, est-ce que les Américains regrettent cet arrêt Roe versus Wade qui a été remis en question par la Cour suprême conservatrice, justement, ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment deux Amériques? Est-ce qu'on est vraiment dans un combat culturel?
J'ai vraiment quelque chose à dire sur cela. Ouais. Et c'est ce qui est cruel dans tout ça, parce que, bien sûr, ça attise le sentiment de guerre civile aux États-Unis. Mais les vrais, ceux qui souffrent vraiment sont les pauvres. Si vous êtes une pauvre femme au Mississippi ou dans l'Alabama, vous n'avez pas de quoi se payer un billet d'avion pour aller à New York pour avoir un avortement. Alors c'est une cruauté terrible sur les pauvres. Et malheureusement, les riches, les moyennes, s'intéresse pas beaucoup au sort des pauvres. Et pour moi, c'est ça ce qui est vraiment dégueulasse dans cette politique de Trump, c'est qu'il exploite l'indifférence envers les pauvres, et surtout envers les pauvres noirs, mais aussi les pauvres, les femmes blanches aussi.
Et donc, vous pensez que cet arrêt de la Cour suprême, est-ce qu'il y a un regret du côté des Américains, ou est-ce qu'il y a effectivement deux Amériques tout de
non,
même
il y a
qui
deux
s'affrontent
Amériques
sur cette question?
Et là, dans l'État, dans le Kansas, c'est dans le Kansas qu'on a passé l'amendement pour garantir le droit à l'avortement. Je ne suis pas certain, mais les gens bien du Kansas sont très contents. Parce que maintenant, tout le monde a le droit à l'avortement. Mais on ne s'intéresse pas beaucoup aux pauvres dames dans l'Alabama ou dans le Mississippi qui n'ont pas le droit et qui n'ont aussi pas le moyen de sortir de l'État pour
l'avortement
se faire avorter.
Banni donc dans l'Alabama, oui. En Louisiane, dans Louisiane, le Mississippi, oui. Très restreint en Caroline du Sud aussi, et en Géorgie.
Ils n'ont ni le droit ni l'argent pour se faire avorter. Et c'est vraiment, c'est cruel. Et ça joue sur les différences économiques entre les Américains, entre blancs et noirs,
et
entre
aura...
riches et pauvres,
ouais.
etc.
Et ça aura un impact sur cette présidentielle, donc, cette question.
Forcément, mais il y a aussi la manière dont se traduisent dans les faits ces lois et ces amendements dans chacun des États, où à partir du moment où la vie humaine est conçue comme étant celle d'une personne dont les droits à la vie sont protégés dès la conception, ça signifie aussi qu'on ne peut pas, on ne pourra peut-être plus obtenir de pilules abortives par voie postale. Parce qu'il y a déjà des tentatives pour retourner à une loi de 1873 que Roe v. Wade avait invalidée, une loi qui s'appelle Comstock, qui considère comme publicité pornographique tout envoi postal d'informations sur les droits reproductifs et tout envoi postal de produits visant à obtenir un avortement. Or, on a... 60% des avortements qui sont effectués avec ces pilules abortives. Donc concrètement, dans la vie des citoyennes et des citoyens, on commence à percevoir toutes les implications de la fin de Roe v. Wade et d'une protection à géométrie extrêmement variable du droit même simplement prendre des médicaments pendant que l'on est enceinte sans risquer de se voir incriminé pour tentative d'homicide.
Enjeu de campagne, en tout cas, on voit très important. Joe Biden, qui était lui dans le Wisconsin hier, un des fameux swing states, hein, ces swing states donc essentiels pour gagner une élection. Et le président a annoncé un plan d'annulation des intérêts des dettes étudiantes. On va l'écouter.
Aujourd'hui, trop d'Américains, en particulier les jeunes, sont accablés de dettes insoutenables en échange d'un diplôme universitaire. La capacité des travailleurs et de la classe moyenne à rembourser leurs prêts étudiants est devenue si lourde que beaucoup ne peuvent pas le faire, même des décennies après avoir fait des études. Je ne cesserai jamais d'alléger la dette étudiante des Américains qui travaillent dur, et c'est uniquement dans l'intérêt de l'Amérique que nous le faisons. Et encore une fois, c'est pour le bien de notre économie.
Là, il s'adresse aux jeunes, John Rick MacArthur.
Oui, mais la difficulté là, c'est que il y a une haine contre le Parti démocrate. J'en parle toujours à cause de la perte d'emploi dans les États dans le Grand Midwest, la délocalisation au Mexique et en Chine, etc. Alors, ce sont les vieux qui sont toujours vraiment en colère contre les démocrates et contre Biden, Clinton.
En particulier dans cet État-là, dans le Wisconsin.
C'est Wisconsin. Et rappelez-vous que Trump a gagné en 2016 avec 80 000 voix étalées à travers trois États, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. Alors, je vous jure que parmi ces 80 000 électeurs, il y a des chômeurs, des gens qui ont perdu leur emploi industriel à cause de l'ALENA ou l'accord avec la Chine, etc. Et c'est à eux qu'il faudrait que Biden s'adresse, et pas aux jeunes, parce que les jeunes votent moins, beaucoup moins que les vieux.
Ils votent moins, mais...
ou les moyens.
Oui, ils votent moins, vous êtes d'accord. Cécile, ils votent moins, mais peut-être qu'ils peuvent faire une différence en votant plus cette fois. Il faut les convaincre, c'est ça ?
C'est justement pour ça que Biden et Kamala Harris essaient autant d'associer la défense des droits reproductifs à leur ticket. Parce que comme on a aux États-Unis un bulletin de vote où tout est regroupé, si on se déplace pour défendre le droit à l'avortement, bah, autant aussi cocher une case ou cliquer sur le nom d'un candidat qui est associé à cette cause-là. C'est le message qu'ils essaient de faire entendre.
L'élection présidentielle qui va dépendre donc de cet État, hein, ces fameux swing states, John Rick, avec, lorsqu'on lit le Washington Post d'aujourd'hui, des disparités sur ce droit de vote très importantes d'un État à l'autre. C'est ça quand même qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, avec en plus, ils sont mouvants en plus, ces droits de vote, puisque par exemple, lorsque vous allez dans le Michigan, donc l'un de ces fameux swing states, le vote anticipé devrait être facilité, puisqu'il devrait y avoir 9 jours pendant lesquels on va pouvoir voter avant le jour J, donc, et le Michigan est géré par des démocrates, alors que par exemple en Caroline du Nord, qui est un État donc républicain, les électeurs vont devoir montrer leur carte d'identité, ce qui est quand même, il faut expliquer que c'est très rare aux États-Unis de devoir montrer sa carte d'identité pour voter. Et en plus, les votes anticipés vont être limités. C'est un État géré par les républicains. Donc là aussi, ces espèces de tripatouillage État par État, ça joue un rôle.
Ça joue un rôle, oui, surtout. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé de la menace venant de Robert Kennedy Jr.
C'est une vraie menace
candidat,
pour vous, oui.
La menace envers Biden. Parce que Kennedy, c'est, bien sûr, c'est un nom de famille très important dans la politique américaine. Et il se présente, il est un peu fou, j'avoue, mais il se présente comme le vrai candidat démocrate qui mène campagne à gauche de Biden. Et en ce moment, il y a le Parti démocrate qui fait toute leur force pour empêcher Kennedy de se présenter dans beaucoup d'États.
Parce qu'on est encore dans les primaires.
Parce que c'est plus question des primaires maintenant, c'est dans l'élection générale.
Aussi.
Parce que s'il se présente, on arrive aux urnes, on est un peu indécis sur Biden et Trump, et vous êtes quand même, on voudrait garder le droit de l'avortement, je ne sais pas. Mais on voit Kennedy devant vous, on se dit, voilà, ça c'est... Le candidat classique démocrate, ça c'est John Kennedy, c'est Robert Kennedy, etc. Voilà mon choix.
Et donc, il pourrait effectivement...
Et il pourrait tirer plus de voix de Biden que de Trump, parce qu'il mène campagne à gauche, des deux.
Et donc, être une menace pour Biden, Cécile Coquemococo ?
Oui, mais il joue aussi la petite musique du candidat anti-système, ce qui est assez ironique pour quelqu'un qui porte ce nom de famille.
Oui.
Et donc, certains analystes pensent aussi qu'il pourrait aller grappiller des voix du côté des républicains qui ne souhaitent pas voter pour Trump et qui veulent quelqu'un de nouveau et d'un peu moins vieux.
Oui, ça pourrait annuler l'un et l'autre, pourrait être annulé. L'effet Kennedy pourrait être annulé. Mais en tout cas, ce sont les démocrates qui font le plus grand effort pour abroger le droit de se présenter à Kennedy, je veux dire, de l'interdire.
Parce que pour l'instant, donc ça, on le saura quand ? À la convention ? Lors de la convention ?
Ça va prendre des mois et des mois, parce qu'il y aura des procédures légales partout. Parce que Kennedy est avocat, il va lutter pour le droit de se présenter sur les bulletins de vote dans le Wisconsin, dans le Michigan et dans la Pennsylvanie. Et c'est très, très important. Parce que s'il prend 3%, 2%, 1% de Biden dans un de ces trois États, ça pourrait faire basculer l'élection pour Trump.
Une dernière chose avant de terminer cette émission. Sur le coût de la campagne, on vous dit que ça sera la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis. Biden qui a déjà récolté 92 millions de dollars, Trump 85,3 millions de dollars. Et les dons des super riches vont plutôt vers Joe Biden.
C'est vrai, absolument.
Et pourquoi ?
Parce que Wall Street, le Parti démocrate, c'est le parti de Wall Street. Et c'est le cas depuis les années 90. C'est Clinton qui a fait basculer le Parti démocrate vers Wall Street et il a complètement laissé tomber les syndicats. Et je vous jure, il y a des syndicalistes qui votaient démocrates, qui voteront pour Trump en novembre, qui ont voté pour Trump déjà en 2016 et en 2020.
Et Trump qui doit payer une amende de 355 millions de dollars.
Je ne dis pas que c'est logique. Je dis simplement qu'il y a une haine, il y a un sentiment de déception dans la classe ouvrière énorme. Et on vise surtout les gens comme Biden et Clinton, les caciques du Parti démocrate.
Donc sa candidature, effectivement, de Joe Biden n'a pas que des avantages. En tout cas, rien n'est joué hein, pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup, Cécile Coquemoucoucou, d'avoir été avec nous. John Rick MacArthur, je représente donc Harper's Magazine, donc ce mois-ci, sur Hollywood, la fin de Hollywood, telle qu'on le connaît. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.